Je reviens tout juste de la première partie avec les enfants et déjà, je peux te dire que tous vos enfants sont très très bien élevés et ça fait plaisir. Il y en a aucun qui pose problème. Ça, c'est vraiment très très agréable en tant que moniteur. C'est pour vous encourager encore plus à vous porter volontaire. Et vous êtes formidable aussi parce que vous tenez bon hein, malgré la météo, malgré le Covid, malgré les infos anxiogènes. Comme ça, vous êtes là dimanche après dimanche ici présent et ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes de vrais guerriers et guerrières. Et justement, mon histoire ce matin, elle commence... Vous dites hein, si je fais n'importe quoi avec les micros. Elle commence par une histoire de l'armée. Vous savez, moi je suis un vieux radoteur du haut de mes 44 ans déjà. J'aime bien rappeler que moi j'ai fait l'armée et pas vous. Et justement, à l'époque de cette histoire, j'étais sergent dans l'armée de terre. Et tout le monde était parti en week-end. Et moi et mes hommes, nous étions chargés de la sécurité de la caserne. J'avais un pistolet chargé à balles réelles à la ceinture. J'étais le chef. Et à l'occasion d'une ronde dans les bâtiments, nous sommes passés devant la chambre d'un autre sergent qui lui aussi était parti en week-end. Et le moins qu'on puisse dire, c'était qu'on ne l'aimait pas. Selon nous, il ne soutenait jamais les soldats face aux officiers. Faillot, fourbe, il pensait qu'à sa propre carrière et à se faire bien voir des supérieurs. Et quand on est passé devant sa chambre, un des soldats a dit « on va lui donner une bonne leçon ». Et voilà qu'à plusieurs, il rentre dans la chambre, retourne l'armoire, tête en bas, prennent du cirage pour barbouiller ses serviettes, plie le lit en portefeuille, et j'en passe. Et je me suis dit « fais quelque chose ». Alors, je me suis jeté au milieu et j'ai crié « Bon, vous arrêtez vos bêtises maintenant. » Ils m'ont regardé étonné. Puis je suis allé au placard à balai. J'ai pris un tablier, j'ai mis autour de ma ceinture. J'ai pris une bassine que j'ai remplie d'eau et une éponge. Et je me suis agenouillé et j'ai commencé à nettoyer. Et alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Non, en fait, il ne s'est rien passé du tout. En fait, parce que c'est pas vrai du tout. Ce jour-là, je me suis bien dit « fais quelque chose ». Mais j'ai rien fait du tout. Et j'ai laissé faire cette mauvaise blague. Dans ma grande lâcheté. Et comme c'était moi le chef, pendant ce week-end, notre sergent bien-aimé, il n'en a pas voulu aux soldats, il en a voulu à moi. Okay. Il m'en a tenu responsable, et moi, je m'en veux encore. Être un bon responsable, un responsable juste, c'est pas facile. En plus, en France, on aime bien nommer des chefs, les accepter comme responsables, et puis après, bien leur mettre la tête sous l'eau. Si c'était un bon responsable, il ferait pas ça, et gna gna gna, gna gna. Et toi, quel chef, quel leader tu es ? Parce que moi, je vois que des chefs ici. En tant que parent, grand-parent, professeur, animateur, pasteur, ancien, responsable de groupe de maison, conducteur de bus, j'en passe. Il y a toujours un domaine de notre vie où nous sommes responsables d'autres personnes. Et ce sont des domaines d'échecs retentissants, de grands regrets, pour toi comme pour moi, mais aussi une mission source d'immense joie et de satisfaction pour le chrétien. Ces derniers dimanches, nous marchons sur les pas du grand leader Moïse, à travers la lecture de son testament, le bilan de sa vie, c'est-à-dire le livre du Deutéronome. Et justement, le petit texte que nous allons lire ce matin nous parle de son échec à la tête du peuple, mais aussi de la solution envisagée. On va lire Deutéronome 3, 23 à 28. Je le lis dans la version « Parole de vie ». Moïse dit « Alors j'ai prié le Seigneur avec force en disant « Seigneur Dieu, tu as commencé à me montrer ta grandeur et ta puissance. Aucun Dieu au ciel ou sur la terre n'est capable d'accomplir des actions ou des exploits comme ceux que tu fais. Je t'en prie, laisse-moi traverser le fleuve au Jourdain. Alors je pourrai voir le beau pays qui est de l'autre côté, cette belle région montagneuse et les montagnes du Liban. Mais le Seigneur s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Il ne m'a pas écouté et il m'a dit, cela suffit, arrête de me parler de cette affaire. Monte en haut du mont Pisga, tourne tes yeux vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et vers l'est, regarde bien, car tu ne traverseras pas ce Jourdain que tu vois. Donne tes ordres à Josué, rends-le fort et courageux. Oui, c'est lui qui traversera le Jourdain à la tête du peuple, et il donnera en partage aux Israélites le pays que tu vas voir. Qu'a donc pu faire Moïse pour être privé de la terre promise ? Pourquoi Dieu s'est mis en colère contre lui à cause du peuple ? Après tout, si vous connaissez un peu son histoire, il avait fait tout le boulot au service de Dieu. Libéré le peuple de l'esclavage en Égypte, après une dure confrontation avec le Pharaon, ouvert en deux la mer Rouge, reçu les 10 commandements, donné des lois dans l'esprit de ses commandements, remis plusieurs fois le peuple dans le droit chemin, donné des juges, etc. etc. Après toutes ces années de service, Dieu aurait pu lui offrir un pot de retraite digne de ce nom, non ? Avec une entrée magnifique dans le pays où coule le lait et le miel, la terre promise, où il était censé emmener les Hébreux. Là, lui, il doit se contenter de voir le pays du haut d'une montagne, comme on pourrait se contenter de regarder une pâtisserie derrière une vitrine. Tu toucheras avec tes yeux, c'est tout. La réponse, elle se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 20. On ne va pas vous l'afficher, parce que c'est un long texte. Je vous raconte l'histoire, je suis sûr que vous irez vérifier que je ne raconte pas n'importe quoi. Nombres, chapitre 20, pour ceux qui notent. Le peuple d'Israël campe alors dans le désert, près d'un grand rocher. Il n'y a plus d'eau et tout le monde a très soif. Les responsables viennent se plaindre à Moïse. Pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte si c'est pour qu'on finisse par mourir de soif ? Et ce lieu que tu as choisi, il est pourri, etc., etc. Le ton, il monte et ils remettent en question violemment Dieu et le leadership de Moïse. L'heure est grave, ça chauffe vraiment, et Moïse et Aaron, son frère, ils se précipitent pour aller prier dans la tente consacrée à Dieu. Okay, le texte nous dit même qu'ils se mettent à plat ventre devant Dieu, tellement la situation est grave. Et Moïse prie et demande une solution à Dieu. Dieu lui donne sa réponse. Réunis le peuple, tu te tiendras avec le peuple, tu parleras au rocher, et le rocher donnera de l'eau pour le peuple. Mais devant le peuple, au lieu de parler au rocher, Moïse, il se tourne vers le peuple et il dit « Alors, peuple rebelle, est-ce que nous, c'est-à-dire Moïse et Aaron, est-ce que nous arriverons à faire sortir de l'eau de ce rocher ?» Et toujours, au lieu de parler au rocher, il prend son bâton et il frappe à 2 reprises sur le rocher. Dieu fait grâce et l'eau coule à flot. Mais Moïse n'a pas respecté les consignes. Au lieu de simplement parler au rocher, c'est-à-dire de faire confiance au Seigneur devant le peuple, il s'est mis en avant avec un petit spectacle, son et lumière, pour bien rétablir son autorité devant le peuple. Et on retrouve là le Moïse tout jeune qui avait voulu se poser en libérateur du peuple en frappant un gardien égyptien. Et vous connaissez cette tentation de s'attribuer la gloire à la place d'un autre. Comme par exemple transférer un email avec un dossier à son supérieur en prenant bien soin d'effacer le nom du collègue qui vous avait transmis le dossier avant. C'est moi qui l'ai fait, chef. C'est à la fois la faute pleine et entière de Moïse, mais c'est aussi les pleurnicheries et critiques constantes du peuple qui le font dévisser et perdre la raison. Et Dieu lui dit ensuite que c'est une atteinte à sa sainteté et que pour ça, il n'entrera pas dans la terre promise. Moi-même, si je comprends cette faute, j'ai toujours tendance à trouver que cette punition, elle est trop forte, malgré tout ce qu'il a fait avant Moïse. Mais le sens profond de ce texte qu'on lit ce matin, elle est dans la réponse de Moïse à cette sanction. Après tout, il aurait pu forcer son passage en terre promise. Ou alors il aurait pu choisir un de ses fils ou quelqu'un de sa famille pour lui succéder. Ça se faisait bien en Égypte à l'époque. Mais toujours dans le livre des Nombres, chapitre 27, verset 16, on trouve sa réponse au Seigneur. Moïse dit au Seigneur, « Seigneur Dieu, toi qui donnes la vie à tous ceux que tu crées, donne un autre chef à la communauté, que ce soit un homme capable de la diriger partout et toujours. Alors ta communauté ne sera pas comme un troupeau sans berger. » Voilà la réponse qu'avait fait Moïse à l'époque. Et comme on voit dans le texte, elle n'avait pas empêché quand même d'espérer pouvoir rentrer et de continuer à prier Dieu pour cela. Mais autrement dit, il avait fait preuve d'une profonde humilité. Il a mis le soin du peuple en avant et a souhaité partager sa gloire avec quelqu'un qui pourrait diriger le peuple partout et toujours. Et Dieu lui a désigné Josué. L'humilité, le fait de ne pas se croire supérieur à celui qui est sous notre garde, mais au contraire vouloir vraiment qu'il soit plus grand que nous. Et vouloir partager ce qui fait notre gloire, notre honneur. Je souhaite par exemple que mes fils deviennent plus grands que moi. Okay. J'aurais même promis, quand ils font 1m81, de leur offrir un petit cadeau. Okay. Et je souhaite aussi vraiment qu'ils deviennent meilleurs que moi. Et ce que nous souhaitons pour nos enfants, nous devons le souhaiter pour toutes les autres personnes qui sont sous notre responsabilité. Que ta communauté ne soit pas comme un troupeau sans berger. Ce berger dont parle Moïse, il annonce déjà celui que nous appelons le bon berger, Jésus. Et si j'ose dire, c'est le seul intérêt de lire un vieux texte du Deutéronome aujourd'hui, c'est qu'il nous annonce déjà Jésus. Vous savez que Josué, Jésus, c'est le même prénom. On le prononce différemment, mais Jésus est un peu le Josué parfait. Et comme Moïse a partagé sa gloire avec Josué, Dieu, lui, partage sa gloire avec son fils, qui lui-même est Dieu. Comprenez bien, le cœur même de Dieu, le cœur même de Dieu, son essence même est partage de gloire et d'honneur. Le Père veut la gloire du Fils, qui lui veut la gloire du Père. Dans Jean, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme reçoit de Dieu la gloire et aussi Dieu montre sa gloire en lui. Si le Fils montre la gloire de Dieu, Dieu montrera lui-même la gloire du Fils et il va bientôt la montrer. » Et le mystère de l'Évangile, la beauté de l'Évangile, c'est que Jésus, il veut partager cette gloire avec nous. Nous considérons plus grand que lui, il s'est humilié jusqu'à la mort pour nous délivrer de nos fautes et que nous partagions sa gloire pour l'éternité. À ses disciples, Jésus dit qu'il ouvre le chemin du ciel pour leur préparer une place et il ajoute « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Et plus loin, en Jean 17, 22, « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est par le don de soi que Jésus a changé le monde. C'est par le don de soi que Jésus a changé le monde. Alors retenez bien cette phrase. Retenez bien cette vérité de l'Évangile. Il nous faut demander vraiment la grâce de Dieu pour bien la comprendre, parce que sinon c'est impossible. Si tu veux être quelqu'un d'influent, si tu veux être quelqu'un qui veut vraiment marquer la vie des gens autour de toi, alors il faut que ton pouvoir diminue. Si tu veux être vraiment quelqu'un d'influent, alors il faut que ton pouvoir diminue. Le pouvoir et ses manifestations, laquelle elles tiennent, en mettre plein la vue, écraser, crier, le pouvoir et ses manifestations ne produisent à terme que la solitude et la révolte. Alors, quelles sont les clés d'une véritable influence ? Quelles sont les clés d'une véritable influence ? Le texte du Deutéronome, qu'on a lu ce matin, nous en donne trois. Trois clés. Dieu demande trois choses à Moïse. Commander à Josué ou lui donner des ordres, le rendre fort et le rendre courageux. Alors on pourrait placer plus d'une heure sur chaque clé, mais je vais donner
quelques explications et quelques exemples sur chacun des points. Commander. Commander signifie ici transmettre à Josué l'enseignement que Moïse avait reçu de Jésus, du Seigneur. Pour nous, cela veut dire transmettre l'enseignement de Jésus. Si j'exerce une responsabilité, ce n'est pas pour mon profit ou ma satisfaction. C'est pour que les autres reçoivent l'enseignement de Jésus. Et pour pouvoir le transmettre, il faut le connaître et en être convaincu. Et il ne faut pas confondre l'idée de renoncer à l'idée de pouvoir avec celle de paresse et de lâcheté. Il faut pouvoir rappeler avec fermeté et douceur que, par exemple, pour Jésus, la parole donnée est sacrée. As-tu médité sur les dégâts causés par le contraire ? Rappeler, par exemple, que pour Jésus, la médisance est aussi grave que le meurtre. Est-ce que tu le transmets par ton exemple ? Commander. L'autre clé, c'est de rendre fort. Alors, si tu veux rendre quelqu'un costaud, physiquement, eh ben, tu lui fais faire des pompes. Tu lui montres une ou deux fois comment bien faire, comment bien placer le dos droit, comment bien placer ses mains, mais après, c'est à la personne de le faire, et souvent. En matière de spiritualité, c'est exactement la même chose. Et quand on lit le livre de l'Exode et des Nombres, on voit comment Moïse a emmené, à partir de ce moment-là, Josué avec lui, à des moments clés, et qui lui a confié des responsabilités avant même de passer la main. C'est tellement plus facile et rapide de faire les choses soi-même. C'est du don de soi et une prise de risque de former et confier un rôle à d'autres. Comme Jésus a jugé préférable de s'éloigner et confier la tâche à ses disciples. Un don de soi et une prise de risque. Mon père récemment a acheté un super taille-haie électrique du Tonnerre, un vrai petit jouet. Et comme ce n'est pas la grande forme en ce moment, il m'a demandé la semaine dernière si je pouvais venir justement couper les tuyas. Et j'avais pris les garçons avec moi en me disant, ben, eux, ils ramasseront ce qui tombera par terre. Okay, j'avais mes boys. Mais quand ils m'ont vu avec mon jouet, comme ça, tailler les haies, ça tranchait comme dans du beurre, et papa, 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 on peut essayer, papa, papa, on peut essayer. Bon. Donc, sans doute influencé par mes méditations sur ce message, j'ai lâché mon jouet, j'ai expliqué quelle était la bonne position pour ne pas se blesser. J'ai stressé pour le moindre accident potentiel, un doigt coupé. Et j'ai dû moi-même me baisser pour ramasser ce qui tombait par terre et passer derrière pour corriger et expliquer ce qui n'avait pas été très bien fait. Mais maintenant, je sais que la prochaine fois que mon père m'appelle, je pourrai me mettre sur un transat et les regarder faire. Quelle satisfaction! Quelle satisfaction! Commander, rendre fort, rendre courageux. Rendre courageux. Non seulement mes garçons ont appris à couper la haie, mais ce matin, devant tout le monde, je dis qu'ils savent le faire et que je suis fier d'eux. Je donne de la légitimité, j'honore devant tout le monde. Dès que Dieu a désigné Josué à Moïse, excusez-moi, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a convoqué tout de suite les responsables du peuple et il a organisé une cérémonie officielle où il a désigné Josué comme son successeur, l'honorant devant tout le monde, le légitimant devant tout le monde. C'est dans Nombre 27, toujours. Rendre courageux, c'est encourager, dire du bien devant les autres. Et vous savez, je ne vais pas plus développer ce sujet, car vous le savez peut-être, mais notre cher pasteur Manu est en train d'écrire un livre sur l'encouragement. Et je vais vous donner un exercice pratique, parce que je suis son futur éditeur. C'est que vous allez aller le voir et vous allez ne pas arrêter de l'encourager à me rendre le manuscrit. Le plus vite possible, parce qu'il travaille, il le peaufine, pour que nous puissions le lire au plus vite et vivre cela en Église. J'ai déjà lu quelques pages, Gordon Marjorie a lu quelques pages, ou a tout lu, et c'est très bon, il m'a dit. Donc Manu, je t'encourage officiellement ce matin. En conclusion, saurons-nous être à l'image de Jésus ? Saurons-nous être à l'image de Jésus ? Développerons-nous la joie de partager ce qui fait notre honneur, ce qui fait notre gloire, ce que nous avons appris, ce que nous savons bien faire ? Travaillerons-nous à affermir et encourager notre entourage, nos enfants non seulement, mais tous ceux qui sont sous notre garde ? C'est notre prière ce matin. Amen.